Bonjour à toutes et à tous, nous c'est
Liam,
Marius,
Tom.
Et aujourd'hui nous revenons sur une information exclusive que nous avons obtenue auprès d'un établissement scolaire drômois, dans lequel il y a eu la mise en place d'une police d'élèves qui, avec le personnel éducatif, a certains moyens de renseignement et de surveillance, a la possibilité d'exclure et de punir d'autres élèves. Pour ça, nous sommes allés interviewer certains élèves et le proviseur de l'établissement, et nous avons donc des interviews exclusives.
J'ai plusieurs sources d'informations, déjà des sources d'informations internes hein, au sein de l'établissement. On a des cellules de veille qui vont suivre un peu la manière dont les choses se passent d'une manière globale pour les élèves.
On a une cellule de veille dans l'établissement, on a des dispositifs d'écoute. Hein.
Faut savoir courir. Faut avoir quand même une bonne compétence physique. Il faut savoir communiquer.
Et oui, ça peut faire du bien, ça peut défouler, ça peut...
Une affaire dont personne ne parle.
Ah oui, non.
Non, pas du tout.
Non, vous connaissez pas.
Ça me dit un truc.
L'affaire de...
Très vaguement.
Non.
Pas vraiment, non.
Écoutons ce que les gens en pensent.
Oui, mais justement, ça peut être intéressant de créer un contre-pouvoir, en fait. Et en fait, voir que elles toutes, elles sont beaucoup plus fortes par rapport à leur harceleuse ou harceleur.
Politiquement, je suis absolument contre.
C'est extrêmement inquiétant. On a l'impression que c'est des milices de nazis qui sont là pour emmener les gens.
C'est très, très clair, c'est qu'on transforme les gens en petits esclaves, tout simplement.
Je pense que faire groupe pour une cause qui nous paraît juste, je pense que c'est beaucoup plus fort. Ça lie beaucoup plus le groupe que des gens qui sont en groupe juste parce qu'ils harcèlent et ils savent tous très bien au fond d'eux que c'est pas bien.
Je pense qu'il faut être plus sévère. Enfin, et puis,
ouais, c'est tout à fait ça.
Apparemment, des fois, c'est pas toujours le cas.
Moi, ça m'interroge beaucoup. Je me dis comment est-ce qu'on a pu en arriver là à ce point de mettre en place des forces pour aussi violentes, en fait, pour se protéger de quoi, en fait. Ça me paraît complètement absurde.
On a rencontré quelques élèves qui participent à cette police. On les écoute.
Faut savoir courir. Faut avoir quand même une bonne compétence physique. Faut savoir communiquer.
Bah, ils essayent de recruter, pas de recruter, mais de faire venir des personnes. Et je comprends la technique et je trouve pas qu'il y ait du mal dans ça.
Vous avez dit danger, mais quel est le danger selon vous en ce moment ?
La drogue.
Enfin, genre les règlements de compte, quoi.
Tant qu'ils ne font pas de mal, qu'ils n'ont rien demandé, faut les laisser tranquilles et ils nous laissent tranquilles.
Et c'est vraiment là-dedans que j'ai appris l'esprit de groupe. C'est là, dedans, où j'ai commencé à prendre confiance en moi. Où tu peux apprendre l'esprit d'équipe. Où tu peux avoir d'autres amis qu'au collège.
Une expérimentation qui pourrait se généraliser partout en Europe.
Ouais, c'est un peu flippant, mais rien n'est impossible dans ce monde.
Oui, ça nous pend au nez. Il faut investir à fond dans l'éducation et la pensée, parce que c'est qu'en pensant par soi-même qu'on évite des dictatures. Et... Voilà, faut apprendre à réfléchir et à regarder les informations.
Quand on voit la capacité d'enrôlement qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et comment on est maintenu dans une bulle qui nous maintient dans nos idées, nous renforce dans nos idées, on peut se dire que tout est possible. Pour moi, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on s'éduque, on soit éduqué à ne pas se laisser piloter par nos peurs. Et ça commence à l'école, ça commence avec la connaissance des émotions, du psychisme humain et tout ça, pour gagner en discernement.
Fake news, tout cela était des vraies réponses à des questions, mais sur différents sujets que nous avons abordés, qui sont...
L'ICE, la police d'immigration américaine.
La montée de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, la santé mentale, le harcèlement scolaire.
L'intelligence artificielle.
Et le hockey sur gazon. Écoutons maintenant les vraies réponses à ces questions sur les vrais reportages.
Dans Radio Fabrique.
On colle des mots. On essaye les micros.
Bonjour. Aujourd'hui...
Attends.
Bonjour. Aujourd'hui, on va interviewer une astrophysicienne qui travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Dans Radio Fabrique.
On essaye la technique.
C'est pas grave. Vous voulez la refaire?
Comment on fait? Comment ça se fait?
Radio Fabrique. Écoutez les créations sonores de la vallée.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Marius.
Et moi Géna, en seconde GATL. Donc nous allons vous présenter le projet qu'on a réalisé sur l'information. Pour cela, nous avons tout d'abord rencontré Clément, qui est un intervenant du journal Le Crétois. Il nous a permis de visiter leurs locaux et d'étudier les différentes formes et techniques pour s'informer. Enfin, nous avons rencontré Théo, intervenant de la radio Saint-Ferriol. Avec lui, nous avons premièrement observé ce que c'était une fake news. Deuxièmement, nous sommes partis interroger les passants de Cré. Vous allez donc pouvoir écouter en direct le résultat de nos enquêtes.
Vous allez pouvoir écouter tout d'abord notre enquête sur l'utilisation de l'IA. Ensuite, vous allez pouvoir entendre notre reportage sur le harcèlement. Enfin, vos ouïes auront la permission de connaître le ressenti des gens vis-à-vis de la montée de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous aurez le droit d'écouter nos deux invités spéciaux, qui sont Monsieur Bache, proviseur de l'établissement scolaire François-Jean Armorin à Cré, sur la santé mentale, ainsi qu'une élève, Léonie, qui fait du hockey sur gazon, qui est aussi élève à Armorin.
Bonjour, je m'appelle Alessia, élève en seconde d'agora au lycée Armorin. Dans le cadre d'un projet en lien avec la radio Saint-Ferriol, nous avons pu travailler sur le sujet d'intelligence artificielle et les jeunes. C'est une révolution en 2026. Nous avons fait un micro-trottoir et nous avons posé quelques questions aux personnes interviewées. Tout le monde n'est pas satisfait car l'IA impacte beaucoup les jeunes. Donc il y a 52% des enfants de 11 à 15 ans qui utilisent un chatbot. On écoute les réponses des passants.
Moi, je ne l'utilise pas parce que politiquement, je suis absolument contre. C'est très clair, c'est qu'on transforme les gens en petits esclaves, tout simplement. Donc moi, je n'ai pas l'intention de tomber là-dedans. Donc tout ce qui concerne l'IA, même sur mon portable, je l'ai viré. Voilà.
Quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'IA, selon vous?
Déjà, ça incite les gens à être un peu paresseux et à ne plus faire des recherches par eux-mêmes. C'est une question d'argent, hein. C'est nous faire consommer aveuglément et sans trop réfléchir, quoi.
Et quelles sont les solutions pour éviter l'utilisation de l'IA?
Déjà, il y en a une grande, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si tous les élèves, dès leur plus jeune âge, avaient une formation là-dessus, quand ils appuieront sur un bouton, ils sauront pourquoi ils le font. Et franchement, apprendre à chercher son information, c'est pas en confiant ça à je sais plus, Gemini ou je sais pas trop quoi, tous ces noms un peu rigolos qu'ils ont donnés pour dédramatiser l'action. Je pense qu'apprendre à chercher l'information, ça, c'est la base de tout. Savoir qui vous demande l'information, qui vous la donne, pour qui, c'est important. Voilà.
Un truc que je me dis souvent, c'est qu'avec l'IA et tout, je sais plus ce que je vois, si c'est vrai ou pas. Et pire que de voir de l'IA, c'est de plus savoir quoi croire, qui me fait vraiment très peur. Voilà mes pensées du moment.
Utilisez-vous souvent l'intelligence artificielle?
Ça m'arrive de l'utiliser et de plus en plus souvent, je dois dire. Je l'utilise pour des choses plutôt d'ordre technique.
Quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'IA selon vous, l'environnement?
Un désastre écologique, parce que ça demande quand même beaucoup de stockage de données, enfin, c'est très très énergivore, c'est quand même quelque chose de... c'est démentiel, voilà. D'un point de vue écologique en tout cas, ouais, c'est un peu une catastrophe.
Utilisez-vous souvent l'intelligence artificielle?
Alors non, j'utilise très peu l'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle, il y en a un peu de partout maintenant, sur les moteurs de recherche, etc. Mais des moteurs de recherche style ChatGPT ou Grok, j'utilise absolument pas, parce que je suis extrêmement méfiant vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est plus dangereux que nécessaire. Mais je pense aussi que ça risque d'amener à un appauvrissement de la pensée humaine de manière générale, on va dire, et que ça va faire que les gens vont faire de moins en moins d'efforts et de moins en moins penser par eux-mêmes, ce qui avait déjà été amorcé avec l'Internet. Je suis désolé, je suis pas hyper enthousiaste sur l'IA, moi.
Utilisez-vous souvent l'intelligence artificielle ?
Oui.
Et quel est votre usage ?
Je l'utilise au travail et aussi dans la vie perso pour obtenir des informations rapidement.
Et quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'IA selon vous ?
Je pense qu'on utilise beaucoup de ressources pour des choses qu'on pourrait faire avec beaucoup moins. Je pense, j'irais pas éviter l'utilisation de l'IA, mais plus la modérer et utiliser des choses qui sont plus adaptées, des petits modèles de langage, des choses qui tourneraient en local ou autre, qui n'iraient pas consommer énormément de ressources sur des serveurs un peu partout dans le monde, quoi.
Utilisez-vous souvent l'intelligence artificielle ?
Pas trop, mais parfois.
Quel est votre usage ?
Parfois, je l'utilise si je veux générer une image.
Quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'IA, selon vous, par rapport à l'environnement ?
Moi, je crois que j'ai entendu que, genre, une réponse, ça fait beaucoup de déchets. J'ai pas très bien compris, mais je crois, voilà, il faut éviter d'utiliser.
Savez-vous que ChatGPT consommait 500 ml d'eau par requête, donc 5 ml d'eau par minute ?
Non. Je savais pas.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Quand on demande aux gens de baisser le chauffage chez eux d'un degré pour qu'ils se voilà pour économiser l'énergie, on compte pas l'énergie qu'on utilise pour l'intelligence artificielle et c'est pas forcément toujours à bon escient, je pense. Donc oui, effectivement, c'est en plus quelque chose qui est très polluant et puis c'est une course en avant. Donc je savais pas, mais merci de me l'apprendre.
On vient d'écouter un micro-trottoir sur l'IA. Vous êtes sur Radio Saint-Ferriol. Bonjour.
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 Nous sommes des élèves de seconde bac pro Agora du lycée Armorin. Nous avons travaillé sur le projet de l'éducation aux médias.
Et nous avons décidé de choisir le sujet de l'harcèlement, suite à l'affaire Camélia, car c'était important pour nous d'informer les gens à ce sujet.
Nous avons interrogé des personnes de tout âge lors d'un micro-trottoir. Tout le monde était intéressé par ce sujet. On vous laisse les écouter.
Est-ce que vous connaissez l'affaire Camélia ?
Non. Ah oui, non.
Non, pas du tout.
Non,
vous connaissez pas ?
Ça me dit un truc.
Avez-vous entendu parler de l'affaire de Camélia ?
L'affaire de ?
Camélia.
Non. Très vaguement.
Pas vraiment, non.
Bah, je vais vous expliquer, du coup, l'affaire Camélia, c'est une jeune fille qui se faisait harceler au lycée. Et elle en a parlé, du coup, aux gens de son établissement. Et personne ne l'a aidée, du coup, elle s'est suicidée, malheureusement.
Ah, d'accord.
Ça arrive trop souvent, malheureusement. Oui. Voilà.
Pour vous, quelles sont les causes principales du harcèlement ?
De ce que je sais, il peut y avoir des causes très visibles, par exemple des insultes, des attitudes clairement problématiques. Mais parfois, c'est à peine visible, en fait. C'est juste des moqueries et répétées. En fait, c'est la répétition de situations. On le remet en question dans sa personne, on va dire, dans ce qu'il est.
Et d'après vous, quelles sont les causes du harcèlement, les principales ?
Bah, je pense que c'est le mal-être, parce que je pense que les gens ils se sentent pas bien dans leur peau et du coup bah ils ont besoin d'exprimer ça et ils le font pas forcément d'une bonne manière. Et je pense que vraiment ça vient du mal-être des gens.
Moi je pense aussi que c'est un peu les réseaux sociaux où les gens ils se permettent un peu plus de dire des choses, mais c'est vrai qu'aussi le mal-être c'est une des principales causes.
Moi je pense que c'est déjà un manque d'éducation de la part des parents qui sont pas sensibilisés à ça. C'est aussi le milieu scolaire qui s'y prête beaucoup, malheureusement, quand on est adolescent. Je pense que ça commence surtout au collège-lycée, où on a envie de se mettre en avant, de trouver un souffre-douleur et d'en profiter pour asseoir sa domination sur lui.
Avec les moyens de communication qu'on a, les réseaux sociaux, ça va très vite.
Oui,
ça peut vite être violent et on peut être isolé avec une personne qui nous harcèle. Et aussi, on peut se sentir vachement beaucoup plus seul face à son téléphone et du coup en communication avec d'autres personnes.
Et comment, d'après vous, on pourrait stopper le harcèlement scolaire ?
Bah déjà, d'en parler, c'est bien. Qu'il y ait vraiment plusieurs personnes qui puissent être sensibilisées à ça et qui ne vont pas minimiser ce qui est exprimée par la personne, quoi. Même s'il n'y a pas de preuves claires et évidentes.
Et qu'il faut vraiment genre, bah, éduquer les gens et faire de la prévention un max pour que, bah, limiter ça, du coup.
Je pense qu'il faut être plus sévère, enfin, et puis être à l'écoute aussi des victimes, parce qu'apparemment, des fois, ce n'est pas toujours le cas. Bon, bah, faire suivre le harceleur, parce que lui aussi, peut-être qu'il a des problèmes, et c'est pour ça qu'il s'attaque à des gens plus faibles que lui. Et puis souvent, c'est en groupe, alors donc ça fait un peu meute après quelqu'un. Oui. Enfin, voilà, il y a des tas de choses.
Voir le problème des deux côtés, de l'harceleur et de celui qui se fait harceler.
Oui.
Le levier, c'est d'éduquer les enfants, je pense. Hein. Peut-être sensibiliser les enfants dans l'école et aussi auprès des parents.
Moi, je pense que déjà, aider les jeunes à identifier ce que c'est le harcèlement, donc bien définir de quoi il s'agit. Et informer les adultes, en fait, de comment est-ce qu'on peut aider un jeune en situation de harcèlement.
Comment on pourrait stopper le harcèlement scolaire ? Oula, ça c'est compliqué. Faire vraiment de la prévention et... Bah, du coup, il y a eu des trucs en mode... Enfin, mettre un âge aux réseaux sociaux, mais ça marchera jamais. Enfin...
Mais c'est vrai, on peut
le oui, voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment hyper compliqué. Donc, je pense que vraiment, de l'éducation, c'est...
Les parents, du coup,
ouais, renforcent. Ouais, les parents, faut qu'ils surveillent et qu'ils préviennent leurs enfants des choses qui peuvent arriver sur les réseaux et dans la vraie vie aussi.
Oui.
Bah, voilà. Bah, merci beaucoup, en tout
merci.
Cas. Je vous laisse retourner en cours.
Merci
bonne journée.
Beaucoup, au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio Saint-Ferréol.
Et nous venons d'écouter des micro-trottoirs sur le harcèlement scolaire.
Sur l'affaire de Camélia.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, nous sommes Inès,
Isaac
et Colline. Nous avons choisi de réaliser un micro-trottoir sur le thème
de la propagande de l'extrême droite sur les réseaux sociaux.
Car cela nous intéresse de savoir l'opinion des gens sur ce sujet.
Nous avons décidé de le faire dans les rues de Cré.
En faisant des micro-trottoirs.
Nous avons réalisé, du coup, fallait dire.
Ah merde, mais j'avais pas la feuille.
Nous avons réalisé dans les rues de Cré des...
Pas des micro-trottoirs.
Je vois beaucoup de vidéos et la plupart des vidéos de l'extrême droite, que ce soit Jordan Bardella ou d'autres, parlent que des étrangers. Ça, la plupart du temps, parlent que des étrangers.
Ça, c'était pour toi, ça. C'est pas
le sur le compte officiel de Jordan Bardella, quand j'ai scrollé. Constatez-vous que l'extrême droite monte en puissance à cause des réseaux sociaux ?
Oui, un peu.
Tu vois beaucoup de publications de l'extrême droite qui parlent d'étrangers ou d'insécurité en France ?
Une vidéo sur... Sur 7.
Et sur quelle plateforme ?
TikTok.
Depuis que tu vois des publications, c'est là où tu t'es dit que ce parti-là était mieux que les autres ?
À peu près, ouais.
Et donc tu t'es fait influencer par les réseaux ou pas ?
Non.
Constatez-vous que l'extrême droite monte en puissance à cause des réseaux sociaux ?
Oui. Beaucoup de vidéos sont mises en avant dessus. Et voilà.
Qu'en pensez-vous ?
C'est pas très bon parce que chacun devrait avoir son opinion politique et personne ne devrait influencer les autres. Et surtout sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de jeunes utilisateurs qui peuvent être influencés très facilement.
Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour changer ça ?
Interdire les réseaux sociaux au moins aux plus jeunes.
Bonjour, est-ce que vous êtes utilisateur de réseaux sociaux ?
Oui, Instagram. Et j'ai réouvert LinkedIn pour la première fois depuis des années, il y a 3 jours. Voilà.
Constatez-vous la montée de l'extrême droite qui monte en puissance à cause des réseaux sociaux ?
Alors, je pense que sur Instagram, je suis genre dans une bulle d'algorithme, c'est comme ça qu'on dit. Par contre, sur Facebook, ouais, c'est pour ça que je suis plus sur Facebook, parce que parfois, je me perdais dans les commentaires et c'était angoissant.
Moi, je suis fait amour. Aujourd'hui, je n'ai plus l'âme sœur.
Les réseaux sociaux sont-ils responsables de la montée de l'extrême droite ? Peut-être en partie, si les gens se servaient de leur cerveau, peut-être et évitaient d'écouter à tire-larigot toutes les sornettes qu'on leur débite à longueur d'antenne et de télé. Voilà, je suis un peu remontée, vous pourrez le constater.
Et je m'imagine ce que tu dis. Ce que tu penses
c'est la montée de l'extrême droite.
Ah bah les gens sont partout.
Bah vous pouvez quand même répondre aux questions.
Vous donnez votre avis.
Il n'y a pas de...
Eh bien, c'est le meilleur.
Donc...
Vous voulez que je vous dise... Je cherche pas la bagarre, on n'est rien. Bon, ben, on est tranquille avec ça.
Ok.
Donc,
je suis contre la violence. Ils ne sont pas violents pour le moment. S'ils sont violents, eh bien, on les matera.
Ok.
Pas de problème.
Non, mais...
Vous informez grâce à la télé, grâce aux journaux?
À la télé, je m'informe, oui, pas de problème.
Quelle chaîne?
Ah mais quelle chaîne? Toutes les chaînes, on fait, okay. On fait un peu tout.
Ok. Eh ben,
écoutez... Ça aux jeunes révolutionnaires. Oh, maintenant, on n'est plus révolutionnaires.
Les jeunes qui ont 15-20 ans, allez.
Eh ben, merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Louise, Ambre et Naya. Nous sommes trois élèves de seconde bac pro Agora, bac pro administratif et gestion d'entreprise, au lycée Armorin. Et dans le cadre d'un projet en collaboration avec la radio Saint-Ferréol, nous avons pu interviewer le directeur du lycée Armorin sur la santé mentale des jeunes. Nous lui avons posé des questions sur les protocoles et les aides qui existent. Sur ce, nous vous laissons avec l'interview.
Merci pour votre écoute.
Donc bonjour, nous c'est Naya et Ambre de la classe de seconde GATL et aujourd'hui on va vous poser quelques questions sur la santé mentale des adolescents. Que savez-vous de la santé mentale des jeunes aujourd'hui dans la vallée de la Drôme ?
J'ai plusieurs sources d'informations, déjà des sources d'informations internes hein, au sein de l'établissement. On a des cellules de veille qui vont suivre un peu la manière dont les choses se passent d'une manière globale pour les élèves, pas seulement en termes de résultats scolaires, mais aussi sur la façon dont ils vont d'une manière générale et en particulier bien leur santé mentale. Par ailleurs, bien, il y a des publications qui ont lieu rapidement, régulièrement. Il y a eu récemment une publication à la fois de la CCVED et de la 3CPS sur justement la santé mentale et le bien-être des jeunes dans la vallée.
Est-ce que dans votre travail, vous avez observé une évolution dans les 20 dernières années ?
On a vu une forme de rupture entre la période avant le Covid et la période après le Covid et une dégradation de la santé mentale des jeunes après cette période qui a été une forte parenthèse pour tout le monde.
D'accord, merci.
Est-ce que vous pensez que les jeunes sont plus touchés aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a une fragilisation plus grande d'un certain nombre de jeunes actuellement, effectivement.
D'accord. Selon vous, quelles sont les raisons ?
Les raisons, c'est complexe. Hein. Je ne peux pas répondre comme ça en quelques minutes. Elles sont multifactorielles, à la fois extérieures hein, et... Mmh. Et on est dans un environnement dans lequel les sources d'inquiétude peuvent être multiples. Hein. Et je pense que les jeunes le ressentent fortement et s'interrogent hein, sur l'avenir, leur avenir à eux. Et là, l'école joue un rôle important aussi hein, sur le bien-être, pour le bien-être des jeunes. Donc, mais également, d'une manière plus générale, hein, sur l'avenir concernant la planète, la géopolitique, la politique.
Que faites-vous pour aider les jeunes aujourd'hui en difficulté ?
Là aussi, les choses se font à plusieurs niveaux. Déjà, lorsqu'on constate qu'un jeune ne va pas bien, hein, on a une cellule de veille dans l'établissement, on a des dispositifs d'écoute hein, au sein de l'établissement pour recueillir la parole des jeunes. Et on essaye en équipe, en réunion d'équipe, hein, à définir la stratégie à établir en mettant bien entendu dans la boucle les parents hein, et tous les professionnels qui peuvent intervenir à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement. Ça, c'est une réaction lorsqu'on constate que des jeunes ne vont pas bien. Et puis, il y a un certain nombre d'actions de prévention. Sur l'éducation hein, et à la vie affective en particulier qui peuvent en amont éviter certaines situations. Il y a l'intervention la vigilance, l'intervention des personnels au sein de l'établissement mais aussi de professionnels à l'extérieur.
Merci.
Connaissez-vous des dispositifs mis en place en dehors du temps scolaire pour aider nos jeunes ?
Alors, notamment dans l'aide psychologique, hein, il y a la maison des adolescents, par exemple, qui va pouvoir apporter une aide à des jeunes en souffrance psychologique ou pour différentes raisons. Bien souvent, d'ailleurs, hein, on voit que les jeunes traversent une période durant laquelle ils ne se sentent pas bien, ils se posent des questions, mais c'est souvent une parenthèse, hein, une parenthèse qu'il faut les aider à franchir. Donc, on peut se sentir mal à un moment sans que ça signifie que, eh bien, on portera ce mal-être durant toute son existence. Hein. Au niveau des jeunes, on voit que c'est beaucoup plus une parenthèse. À un moment, un cap à franchir avec des angoisses hein, qui sont vraiment réelles. Et il faut les accompagner dans ces moments-là. La maison des adolescents va pouvoir jouer un rôle, hein, de même que tous les acteurs dans le domaine de l'accompagnement psychologique. Mais à d'autres niveaux, on a les éducateurs de rue aussi qui jouent un rôle important hein, pour des jeunes qui, là aussi, peuvent être rentrés dans des consommations ou des habitudes qui peuvent mettre en péril leur santé. Il y a comme ça un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Hein. Puis il y a des acteurs positifs hein, qui vont aider les jeunes à mener des activités et qui peuvent en amont hein, éviter eh bien, le mal-être. Il y a des acteurs positifs, je pense à la MJC par exemple, Nilchez, ou d'autres acteurs qui vont pouvoir permettre de faire des choses à éviter ça.
Ok, merci. Connaissez-vous des solutions pour améliorer la santé mentale des jeunes ?
Il n'y a pas une solution globale. Hein. S'il y avait une solution, on l'appliquerait oui. hein, immédiatement. Il y a autant de situations et de solutions, de paramètres à prendre en compte que de jeunes. Chaque personne, chaque individu va ressentir les choses d'une manière particulière et la réponse doit être individuelle. C'est pour ça qu'il est important aussi, lorsqu'on constate qu'il y a un mal-être, de se mettre en équipe pluridisciplinaire, et puis de se poser la question du jeune véritablement, avec ce qui le caractérise. Hein. Et pour certains jeunes, eh bien, une forme de pression, par exemple de pression scolaire, peut représenter un véritable problème. D'autres jeunes, au contraire, ont besoin d'une certaine... trouvent que la pression est stimulante. Chacun va le vivre d'une manière différente. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à chacun, à tout ce que la personne a traversé, tout ce que la personne rencontre, pour pouvoir eh bien, essayer d'apporter des réponses adaptées.
Merci. D'accord, merci beaucoup d'avoir
répondu
à nos questions. Je vous
en prie. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Donc, nous venons d'écouter l'interview du proviseur sur la santé mentale des jeunes.
Pour lutter contre les problèmes de santé mentale, le sport peut être une solution. Donc, nous avons interviewé une joueuse de hockey sur gazon.
Bonjour.
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 Je m'appelle Inès.
Et moi, c'est Lia. Donc, on est en classe de seconde et on a un projet en collaboration avec la radio Saint-Féréol. Donc, on va te poser quelques petites questions. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Léonie. Je suis en classe de 4e à Armorin. Et je pratique ce sport depuis... 8 ans.
En quoi consiste le hockey sur gazon ?
T'as une crosse et une balle. La balle, c'est un peu comme une balle de tennis, sauf qu'elle est plus dure, en plastique dur. Et le but, c'est tu joues en équipe. Et le but, c'est que la balle, elle soit dans la cage adverse.
Quelles compétences il faut acquérir pour faire du hockey ?
Faut savoir courir. Faut avoir quand même une bonne compétence physique. C'est quand même un sport avec des appuis. Faut savoir... communiquer.
Pourquoi t'as décidé de faire ce sport ?
Alors, j'ai pas trop eu le choix au début. Donc, j'ai commencé comme mes frères avant moi, quand j'étais toute petite. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier. Et puis voilà, maintenant je suis dans une équipe que j'aime. Et du coup, je veux continuer à m'améliorer.
Envisages-tu d'en faire dans une carrière pro ?
Alors, j'y ai pensé. Parce que j'ai fait 3 fois les championnats de France dans ma vie. Et j'ai des grands frères qui ont failli en aller en équipe de France. J'ai été repérée au championnat de France par des coachs de l'équipe de France, du coup. Donc, il faut encore que je m'améliore. Mais je ne sais pas trop parce que j'ai quand même des projets dans ma vie.
Où est-ce que tu pratiques le hockey sur gazon ?
Alors, j'ai commencé à Eure. Après, Mon père, il a créé des équipes. Donc, il y en a une à Cré. C'est plutôt une équipe masculine. Donc, je suis la seule fille depuis longtemps. Après, il y en a une à Montélimar. Donc, j'y vais de temps en temps pour m'entraîner. Et sinon, moi, maintenant, ça fait maintenant un an que je joue avec le FCL à Lyon. Parce qu'il n'y a pas d'équipe fille dans le sud. Du coup, je joue avec une équipe fille à Lyon.
Qu'est-ce que tu préfères dans ce sport ?
Alors, moi, je suis attaquante. J'aime bien ce poste-là. Je suis plus forte. Du coup, c'est attaquante. Donc, je m'entraîne à ça depuis longtemps. Donc, c'est ça que je préfère.
Ok.
Est-ce que tu peux nous dire la différence entre jouer en club ou en équipe ?
Ok, dans un club, tu as plusieurs équipes, donc tu peux avoir les U8, U10, U12, U14, U18, et bah après tu as les catégories hommes-femmes, donc élite, N1, N2 et tout. Et donc tu joues en équipe quand c'est ton équipe, du coup, avec les catégories, et quand tu es en club, c'est toutes les catégories.
En quoi tu trouves que le hockey sur gazon, c'est intéressant ?
C'est intéressant parce que... Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant parce que c'est là, dedans, où j'ai commencé à prendre confiance en moi. Où tu peux apprendre l'esprit d'équipe. Où tu peux avoir d'autres amis qu'au collège ou dans ta ville et tout. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai appris l'esprit de groupe. Voilà, et vraiment avoir confiance en moi. Donc, j'aime bien.
Est-ce que tu penses que quand, tu peux être perdu sur ta vie ou quelque chose comme ça, quand tu joues au hockey sur gazon, ça te fait un peu oublier les choses ?
Oui. De un, parce que je joue pas ici. Du coup, moi, comme je vous l'ai dit, je joue à Lyon. Donc, du coup, je suis loin, enfin, plus loin. Je suis avec d'autres personnes que mes amis ne connaissent pas. Avec d'autres amis, du coup, j'ai d'autres délires, d'autres passions que je partage avec elles. Et oui, ça peut faire du bien, ça peut défouler, ça peut... Vraiment, moi, je me sens mieux après avoir fait du hockey.
Ok. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Ah, de rien, avec plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
C'était l'émission des Secondes Agora. Ce fut une expérience très enrichissante. Nous avons appris plein de choses dans le domaine de la radio et de la presse écrite. Nous remercions Théo et Clément, les intervenants de la radio Saint-Ferréol et du Crétois, de nous avoir initiés à leur métier. Tous les élèves de la Seconde Agora vous remercient pour votre écoute. À bientôt sur la radio Saint-Ferréol.
Radio Fabrique.
Tout le monde peut faire de la radio sur Radio Saint-Ferréol.